Place Info.
Bienvenue à toutes et à tous. C'est parti donc pour une heure de débat, de discussions animées autour de l'actualité. Nos invités ce soir, Jade Zahab, bonsoir.
Bonsoir.
Fondateur du Parlement étudiant, auteur de La France est une chance, paru cette année aux éditions Les Trois Colonnes. Julien Leclerc, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, écrivain, auteur, c'était l'an dernier, de Rendez-vous avec la France qui bouge, 100 initiatives qui changent tout aux éditions du Rêve. Jean-Jérôme Bertolus est également avec nous, bonsoir.
Bonsoir Victor.
Chef du service politique, bien évidemment, de France Info. Nous allons revenir ce soir sur les conséquences de la mort avant-hier du maire de la commune de Signes dans le Var. Cette affaire peut-elle permettre de faire avancer les choses quant au travail des élus de terrain et à la gestion des déchets déversés illégalement. Illégal aussi, ces actes de vandalisme contre les voitures de location en Espagne, à Palma de Majorque, pour dire non au tourisme de masse. D'autres villes en Europe et dans le monde commencent à réguler ces afflux de milliers, voire de millions de visiteurs. Qu'en pensent nos informés? Nous leur poserons la question. Manifestation ce soir à Paris de livreurs de l'enseigne Deliveroo, opposés aux nouveaux tarifs. L'occasion de se pencher sur les limites de l'ubérisation des services dans notre société. Boire ou applaudir, faut-il vraiment choisir? Plus de 100 députés de la majorité veulent rétablir l'autorisation de la vente d'alcool dans les stades, ce qui banaliserait la consommation, dénoncent des associations. Premier débat donc ce soir des informés après le décès lundi du maire de la petite commune de Signes, Jean-Mathieu Michel, renversé par une fourgonnette. Il voulait empêcher le déversement illégal de gravats sur sa commune. 88 000 tonnes de déchets seraient déversées tous les ans de cette façon. Cette affaire peut-elle permettre de mieux encadrer les choses, Jean-Jérôme Bertolus?
Oui, vous dites « serait déversé », mais en fait, c'est on peut employer le présent et pas le conditionnel.
Chiffre
c'est...
avancé par le président des maires ruraux du
Var. Oui,
du,
voilà, et c'est le chiffre aussi qui est donné en général par l'ADEME, globalement 100 000 tonnes constatées par an. Et en fait, les professionnels de l'environnement disent plutôt 200 000 à 300 000 tonnes déversées par an, parce qu'il faut simplement, il faut constater toutes les dépôts illégaux, et c'est pas toujours fait. Donc effectivement, le chiffre est impressionnant. Alors clairement, effectivement, eh bien la mort du maire de Signes va reposer le problème de ces dépôts illégaux. D'abord parce que ils peuvent défigurer une commune, ils peuvent défigurer l'environnement de la commune, et là c'était le cas, parce que ça se pose d'une manière cruciale. Souvent, c'est le fait de petites PME, d'artisans du bâtiment. Et ce qui est vrai, c'est qu'en plus, souvent, le maire sait qui c'est. C'est dans la commune. Et le maire est parfois impuissant. Donc, clairement, cela va reposer effectivement le problème de ces dépôts illégaux. Et d'un mot, ça va reposer le problème de l'État. Parce que là, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il y a à peu près 4500 déchetteries pour les particuliers. En France, il n'y en a que 500 pour les PME, pour des dépôts professionnels. Et en plus, c'est cher. Et quelquefois, les PME ne peuvent pas faire face. Donc, en tout cas, déjà, il y a d'autres choses à dire, mais déjà, il faut effectivement plus de dépôts pour les PME et sûrement à un coût moindre.
C'est à l'État d'agir, Jade Zahab, dans ce dossier?
Oui, à mon sens, il faut que l'État réagisse premièrement sur le sujet des moyens qui sont mis à disposition des PME, c'est évoqué, puisque beaucoup de, enfin, les PME sont parmi celles qui déchargent le plus en termes de volume. Question de régulation, et j'allais dire aussi peut-être question de philosophie, parce qu'on parle de déchetterie, mais la question du recyclage et de qu'est-ce qu'on peut faire autre que décharger les déchets sur la voie publique ou ailleurs. Et en l'occurrence, il me semble, puisque Brune Poirson travaille sur la secrétaire d'État... la ministre, pardon, en charge de... Secrétaire d'État en charge de la transition écologique et solidaire, travaille sur un projet de loi sur le recyclage qui va être présenté à la rentrée au Parlement. Et effectivement, c'est l'occasion aussi de peut-être changer de philosophie sur les déchets, puisque très certainement...
Il faut quand même que ça passe par des décharges qui soient autorisées, déjà, de trouver des moyens d'accueillir ces choses-là. On avait cet après-midi Jacques Chanu, le président de la Fédération française du bâtiment, qui pointait ce problème. Lui, il parlait de fléau en disant justement que déjà, il n'y avait pas assez d'endroits, et que souvent c'était aussi des travailleurs payés au noir qui effectivement n'avaient pas forcément soit l'argent soit les autorisations pour venir décharger dans ces décharges publiques. Julien Leclerc.
Oui, c'est,
Je ne sais pas si ça fera bouger les mentalités. En tout cas, au moins, on parle de ce sujet-là. C'est hyper intéressant ce que vous venez de dire sur l'accompagnement des PME pour le tri des déchets. Moi, j'ai eu une expérience il y a quelques années. On m'a un peu tapé dessus parce qu'on triait pas. Donc, on a dit OK, on va trier, mais en fait, c'est à nous de faire tous les efforts. Et vous avez souligné quelque chose d'important, Jean-Jérôme, c'est qu'il faut payer pour ça et payer beaucoup plus cher parce que vous êtes une entreprise. Il y a un grand scandale sur lequel j'ai pu travailler il y a quelques années. Je suis allé visiter une super usine de recyclage automobile en Sologne à Romorantin qui appartenait à un groupe s'appelle Indra, et c'était incroyable. Je leur dis, mais c'est génial, mais quel métier? Et ils me disent, bah ouais, sauf qu'en fait, il y a une voiture en France qui est recyclée illégalement, une voiture sur deux. 50% des véhicules en France sont recyclés dans des cases sauvages qui dénigrent toute réglementation environnementale. Donc il y a des vrais sujets de société autour du recyclage des déchets, autour de où on met nos déchets, et de ce que deviennent ensuite les déchets, parce qu'il y a aussi ce sujet-là, c'est voir où on les envoie, souvent au tiers-monde, et comment ils nous reviennent après.
On parlait de l'intervention de l'État. On a 36 000 communes environ en France. Comment l'État intervient à chaque endroit, à chaque déversement illégal, Jean-Jérôme ?
Oui, alors l'État, comment l'État intervient ? Ce qui va se passer aussi, c'est que l'État va intervenir, poussé sans doute par les sénateurs qui vont discuter du projet de loi de Sébastien Lecornu sur les maires. Il va sûrement y avoir des amendements suite au drame qui s'est passé à Sainte. Et notamment, il va y avoir un renforcement des sanctions en matière de dépôt sauvage. Aujourd'hui, si vous êtes un particulier, l'amende forfaitaire, c'est 68 euros. C'est complètement dérisoire. Et donc, par exemple, on parlait du recyclage des PME à l'instant. Eh bien oui, il faut créer un délit pénal parce qu'il y a une véritable économie illégale du recyclage. C'est-à-dire que il y a des boîtes qui s'embarrassent pas de conscience professionnelle, qui vont voir des PME qui disent « Oui, oui, on s'occupe de vos déchets ». Et puis en fait, qui verse tout ça dans des dépôts illégaux, c'est un véritable business. Donc le traitement illégal des déchets, ça va faire aussi l'objet d'une pénalisation.
On va continuer à parler de ce qui pourrait changer après la mort du maire de Signes lundi, juste après un point sur l'info 20h10, Armel Balogog.
Plusieurs centaines de livreurs à vélo rassemblés sur la place de la République à Paris. Ensuite, ils vont bloquer plusieurs restaurants. Ils veulent empêcher la livraison des repas via Deliveroo. Les livreurs dénoncent la nouvelle grille tarifaire de la plateforme. Elle entraîne une baisse de leur rémunération. L'employé de travaux publics poursuivi pour la mort de Jean-Mathieu Michel est bouleversé, anéanti et dépassé par les événements. Les mots de son avocat Julien Gauthier sur France Info. Le conducteur de camionnette est mis en examen pour homicide involontaire. Lundi, il a renversé le maire de Signes dans le Var en faisant une manœuvre. L'élu local est mort sur le coup. 5 Français interpellés en Espagne. Ils sont soupçonnés d'avoir violé en groupe une Norvégienne de 20 ans. Ils l'avaient invitée à venir chez eux dans un logement touristique à Benidorm. Après Malte, l'Italie ferme ses ports à l'Open Arms, le navire humanitaire à interdiction d'entrer dans les eaux territoriales italiennes. Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur, menace même de saisir le bateau. L'Open Arms est bloqué en Méditerranée depuis 6 jours avec 121 migrants à bord.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Les informés avec Jade Zab, Julien Leclerc et Jean-Jérôme Bertolus. On continue à parler de la situation dans les mairies, dans les communes, pardon, après la mort du maire de Signes lundi. Un exemple sur la façon dont on pourrait justement pénaliser ceux qui déversent illégalement des déchets à Draguignan. Il y a des PV qui sont mis en place grâce notamment à des caméras de surveillance qui ont permis de dresser plusieurs centaines de PV. Le maire de la commune dit oui, ça marche, parce qu'effectivement, ben voilà, il y a ce qu'on peut appeler communément la peur du gendarme, Jade Zab.
Oui, complètement. Et Jean-Jérôme Bertolus évoquait à l'instant le projet de loi qui s'appelle Nouvelle confiance dans les élus locaux, qui est porté par Monsieur Lecornu. Et en l'occurrence, concernant les déchets sauvages, il est question soit d'établir des amendes administrative, de prononcer des astreintes ou même d'imposer parfois des mises en conformité pour certaines entreprises qui ne respecteraient pas les règles. Donc très clairement, l'État a moyen d'agir, et si je peux revenir un instant sur l'intitulé même du projet de loi, nouvelle confiance en les élus, c'est que depuis un certain nombre d'années en France, il y a une forme de défiance entre l'État et les élus locaux. Les élus locaux ne se sentent pas accompagnés par l'État qui leur demande un certain nombre de choses à mettre en œuvre. Et en l'occurrence ici, par exemple, sur les 520 000 élus locaux que contre la France, il faut rappeler quand même que 80% sont des bénévoles, donc ne touchent pas d'indemnité pour exercer leurs fonctions. Il y a un désamour, paradoxalement, pour les fonctions de maire. On a plus de la moitié, parfois, des maires qui ne souhaitent pas se représenter. Donc, il est vraiment aujourd'hui question de renouer le lien avec ces élus qui sont souvent en première ligne. Les premiers élus vers lesquels on se retourne quand on est un citoyen aujourd'hui, c'est l'échelon du local, c'est l'échelon de celui qui connaît la vie sociale, la vie culturelle du village ou de la ville. Et donc, il est vraiment question aujourd'hui de renouer un lien entre pas nécessairement entre les citoyens et les élus, puisque les maires sont très souvent les élus les plus appréciés en France, mais plutôt un nouveau contrat de confiance, si vous me permettez cette expression, entre l'État et les collectivités locales, en l'occurrence les maires.
D'où justement cette concertation annoncée qui devrait se faire au Sénat. C'est ce que nous a dit tout à l'heure sur France Info Philippe Bas, le président LR de la Commission des lois au Sénat.
Nous allons leur demander de recenser les actes avec toute la gradation envisageable à partir des propos menaçants, des actes d'incivilité, des refus d'obéissance, voire des atteintes physiques. Et nous voudrions savoir, quand les plaintes ne sont pas déposées, quelle est la réalité des difficultés pour leur sécurité auxquelles les maires sont confrontés.
Elle peut servir à quelque chose, franchement, cette concertation, Julien Leclerc ?
Si elle n'est pas qu'un effet d'annonce, oui, pourquoi pas. En tout cas, s'il y a quelque chose de touchant et de marquant, c'est que là, il y a beaucoup de témoignages d'élus depuis 2-3 jours, depuis que ce drame est survenu. Il y a encore eu une permanence de la députée de Seine-Maritime qui a été vandalisée cette nuit. Moi, j'ai une maman qui est adjointe au maire du côté de Sète et qui me raconte avec beaucoup d'étoiles dans les yeux et beaucoup de passion son mandat. Et en même temps, elle vit cette violence au quotidien. Quand vous êtes élu, quand vous êtes engagé en tant qu'élu local, vous êtes payé une misère, ça vient d'être dit. Quand vous êtes payé, c'est un boulot à temps plein. Vous êtes face à une défiance et une violence de moins en moins contenue. Ça devient un vrai sacerdoce à porter quand même ces engagements-là. Il y a une phrase, il y a un dicton qui dit « on a les élus qu'on mérite ». Sincèrement, si on continue comme ça, on ne va plus avoir d'élus du tout en France.
Jean-Jérôme Bertolus.
En fait, ce qui est intéressant, effectivement, c'est que cette consultation va partir des actes de violence, alors constatés par la police, soit sous forme de plaintes des maires, soit sous forme de mains courantes, en tout cas des faits objectifs. Et à partir de quoi s'est nouée cette violence ? Cela veut dire, là on parle effectivement d'un dépôt sauvage, mais il peut s'agir aussi d'une construction illégale dans un champ, et le maire tient à faire respecter en quelque sorte l'urbanisme de sa ville. Ça peut tenir à du stationnement illégal, et vous savez que le maire a des pouvoirs de police administrative, mais qu'il est aussi officier de police judiciaire. Et donc en faisant remonter en quelque sorte les cas les plus emblématiques de violence, ça permettra peut-être de légiférer précisément pour donner plus de pouvoir, plus de que le maire se sente pas impuissant et se trouve confronté à de la violence dans ses fonctions de maire de tous les jours.
Il y a la loi, il y a aussi les moyens, parce que souvent justement il est très seul sur le terrain, Jadzab.
Oui, complètement. Et vous disiez qu'il se sente moins seul et qu'il ait les pouvoirs d'agir, et surtout qu'il n'ait pas peur éventuellement de faire une erreur, parce que parfois ça peut arriver. Et très souvent, la responsabilité pénale des maires est mise en cause quand il y a parfois une négligence. Et effectivement, certains maires sont obligés de prendre leur propre avocat. Alors on disait à l'instant que dans 80% des cas, ils n'ont pas de revenus liés à l'exercice de cette fonction. Donc il est vraiment aussi question de permettre aux élus d'exercer avec beaucoup plus de sérénité, puisqu'il faut quand même dire aussi que ce sont des gens qui font un choix de s'engager. Et donc, ce serait quand même dommage qu'on en arrive à une époque où, hélas, plus personne ne voudrait faire un peu ce don de son temps au service d'une collectivité, et surtout non rémunéré. Donc effectivement, donner les moyens, c'est pas nécessairement toujours la question des moyens pécuniers, mais la question des moyens juridiques et légaux d'armer un peu plus les maires face aux situations, et notamment la question de leur responsabilité en l'occurrence.
Oui, précisément parce qu'on ne le sait pas toujours, mais par exemple un dépôt illégal, vous êtes riverain d'un dépôt illégal, et bien vous pouvez porter plainte contre le maire.
Exactement.
Précisément.
C'est ce qui se passe.
Vous êtes une association de pêche. Si la rivière est polluée par un dépôt illégal, vous portez plainte contre le maire. Alors, il y a une petite avancée quand même dans le projet de loi de Sébastien Lecornu qui fait que toutes les communes vont devoir prendre une assistance juridique pour effectivement, on va dire, conforter le maire. Et quand la commune ne pourra pas le faire pour des raisons pécuniaires, l'État prendra le relais.
Julien Leclerc.
C'est essentiel parce que vous avez une somme de responsabilités qui vous engage pénalement, parfois en perso, dès que vous êtes élu local, qui est énorme, et tout le monde le fait. Vous bougez le petit doigt, vous prenez 30 procès, vous bougez pas le petit doigt, vous prenez 30 procès quand même. Il y a quelqu'un qui tombe dans votre commune, vous prenez un procès. Voilà. Donc c'est clairement, il faut qu'on se pose la question de ça. Et là, ce qui est en jeu, c'est aussi, il a voulu faire lui-même respecter les règles, c'est pas son job. C'est pas à lui de le faire. Donc comment on accompagne ces petits maires, notamment ruraux, pour faire respecter la loi?
Le problème n'est pas nouveau. Ça fait des années et des années qu'on en parle tout de même de ces difficultés pour les maires des petites communes. On a vu encore pendant le grand débat national ces maires qui se sont directement adressés à Emmanuel Macron pour parler des problèmes de leurs concitoyens, mais aussi de leurs problèmes d'élus. Est-ce qu'on a vraiment une chance que ce fait divers change les choses, Jean-Jérôme Bertolus?
Ce fait divers, il a frappé tous les élus. Donc les sénateurs en premier lieu, qui sont le représentant des élus, qui sont le représentant des territoires, effectivement. Donc oui, il y a peut-être effectivement... moi, je ne sais pas ce qui est bien et ce qui est mal pour les maires, mais en tout cas, les maires peuvent penser qu'il va y avoir, que ce drame, c'est terrible de dire ça, mais va peut-être servir à quelque chose, qu'il va servir de caisse de résonance pour le prochain débat, encore une fois, qui sera en octobre au Sénat sur ce projet de loi de Sébastien Lecornu, qui est plus sur le maire lui-même, moins sur ses pouvoirs. Et d'un petit mot, si c'était malheureusement le job de Jean-Mathieu Michel d'aller constater une infraction, encore une fois, c'est un officier de police judiciaire. Les officiers de police judiciaire doivent constater les infractions et les faire remonter au procureur. Et
c'est là que la responsabilité est beaucoup trop lourde. C'est bien de ça dont on parle.
Jahad Zahab, un dernier mot peut-être sur le sujet.
Sur cette démarche de questionnaire à tous les maires, je pense c'est pas une démarche qui peut nuire dans tous les cas. Ça me rappelle un peu le moment où le président de la République annonce le grand débat. Alors bien sûr à une échelle tout à fait réduite. Là c'est un peu le grand débat des maires où on va faire remonter les problématiques que les maires rencontrent, parce que paradoxalement ceux qui ont rencontré le chef de l'État ont pu s'exprimer, mais beaucoup de maires ont fait d'abord passer les préoccupations de leurs concitoyennes et concitoyens avant celles de l'exercice de leur propre mandat. Ensuite il faut voir encore une fois à quoi ça servira concrètement.
Ça peut nuire si ça ne donne rien d'ailleurs.
C'est ça. Peut-être ça nourrira aussi des amendements au projet de loi. Donc là-dessus, la démarche ne peut qu'être bonne si ensuite elle débouche sur quelque chose.
S'il ne se passe rien, ça peut nuire à la relation clairement de l'exécutif avec ses maires encore un peu plus.
Julien Leclerc, Jahad Zahab, Jean-Jérôme Bertolus. La suite des informés dans un instant, 20h20 sur France Info. Armel Balogog.
Des dizaines de manifestants réunis devant l'hôpital de Dayton dans l'Ohio. Ils demandent à Donald Trump d'agir contre les violences par arme à feu. Le président américain se rend au chevet des blessés d'une tuerie le week-end dernier. 9 personnes sont mortes. Jacqueline Gourault et Gérard Larcher assisteront aux funérailles de Jean-Mathieu Michel après-demain. La ministre de la Cohésion des Territoires et le président du Sénat veulent rendre hommage au maire de Signes dans le Var. Il a été tué par un conducteur de camionnette lundi. L'homme est mis en examen pour homicide involontaire. 3 suspects placés en garde à vue dans l'affaire des arnaques aux cigarettes trafiquées dans la Loire. Ils donnaient des cigarettes à des jeunes à Roanne. Après 2 bouffées, les jeunes perdaient connaissance et les suspects leur dérobaient leur téléphone portable. Et puis les parlementaires sont-ils soumis au lobby de l'alcool? C'est l'avis d'Amin Benyamina. Le psychiatre addictologue estime sur France Info que la France est un grand pays victime de l'alcool. Une 100aine de députés de La République En Marche plaident pour son retour dans les stades. Il en est banni depuis la loi Evin de 91.
France Info. 20h, 21h, les informés, Victor Matet. In the summertime, when the weather is hot, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find.
De la musique, et vous venez de les entendre, ces bruits de massue pour dénoncer le tourisme de masse, justement à Palma de Mallorca en Espagne. C'est une vidéo qui vient d'être publiée par un mouvement d'extrême gauche. Il y a 2 ans déjà, des Mallorcains étaient descendus dans la rue pour dire que face au nombre de touristes, ils ne se sentaient plus vraiment chez eux. Problèmes de pollution, de hausse de loyer, de vie quotidienne. Ces problématiques existent ailleurs, bien évidemment, en Europe et dans le monde. Alors faut-il lutter contre le tourisme de masse ou du moins le contrôler, comme le font d'ailleurs certaines villes. C'est notre deuxième débat ce soir dans les informés. Qui veut commencer sur ce sujet? Jean-Jérôme Bertolus, peut-être?
Le tourisme de masse, oui, c'est un problème qui ne fait que débuter, effectivement. On pense que les déplacements en avion vont doubler au cours des 20 prochaines années. Et puis, il y a tous les réseaux sociaux, y a tous ces amis qui publient des photos de tel ou tel spot. Et on a juste envie d'y aller et prendre les mêmes photos au même endroit et souvent à la même période.
Il y a des lieux qui n'ont pas attendu les réseaux sociaux. Si on est place Saint-Marc à Venise, je pense qu'il n'y avait pas forcément besoin de Twitter
mais
ou Facebook.
Vous voyez, juste, là, je vais vous avouer mon âge, mais il y a 20 ans, j'ai une amie qui me dit, il faut que tu ailles à Angkor, au Cambodge. Ça va beaucoup changer. Et oui, ça a beaucoup changé. Il y a un aéroport qui est né à Angkor. Il y a des hôtels qui ont poussé comme des champignons. Aujourd'hui, ça va se passer peut-être au Pérou, à Machu Picchu, où il y a un projet d'aéroport. Donc oui, il y a une véritable interrogation autour du tourisme de masse. Ce qui est intéressant, c'est que non, il ne faut pas interdire aux gens de prendre des vacances et de jouer les touristes. Oui, comment on régule ? Parce que sur les sites naturels, ça pose un problème sur la nature. Et dans les villes peuvent être défigurées, changer véritablement de physionomie sociale. Donc oui, c'est un véritable problème.
Près d'1,5 milliard de touristes par an à travers le monde. Ce sont les derniers chiffres disponibles. Donc, d'où cette question. Donc, justement, comment on fait, Jade Zahab?
Alors, je pense pas tout d'abord qu'il
faille... Si vous avez la solution, bien évidemment.
Hélas, pas encore. En l'occurrence, j'entendais la semaine dernière un reportage en France où, sur les côtes normandes, on se rendait compte que la falaise s'est rodée beaucoup plus vite aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et c'était notamment dû au fait qu'il y a un passage extrêmement important de touristes, mais pas nécessairement des touristes qui peuvent être extra-européens ou européens ou même français. Il n'est pas question dans la désignation de touriste de pointer du doigt celui qui serait un étranger ou celui qui ne le serait pas, puisqu'il y a des touristes au sein même d'un pays. Et donc effectivement, la question de la protection de l'environnement est un vrai sujet. Il ne faut pas non plus oublier, puisque là, les actes qui ont été proférés en Espagne ont plutôt tendance à pointer du doigt le tourisme de manière générale. Et il ne faut pas non plus oublier que le tourisme est aujourd'hui une ressource économique extrêmement importante. Si on parle de la France, je crois que
c'est 45% du PIB à Majorque.
Voilà, à Majorque. Et je crois qu'en France, c'est un peu plus de 7% du PIB. Là où il y a peut-être un petit sujet aussi, c'est que en regardant les statistiques aujourd'hui de la Banque de France, j'ai constaté que la France est toujours la première destination touristique en termes de voyageurs qui viennent, 83 millions à peu près de touristes extra, donc nationaux là pour le coup. Et en revanche, la France est le troisième pays dans le monde en termes de recettes touristiques. Donc peut-être ça pose la question de pourquoi est-ce que les touristes...
On vient chez nous, mais on ne dépense pas.
Voilà, et l'analyse disait qu'effectivement, c'était des séjours très courts. Donc effectivement, peut-être qu'il faut aussi se poser la question de quel sera le tourisme de demain. Est-ce que finalement, c'est pas justement à cause ou grâce aux réseaux sociaux, on va un peu partout, beaucoup moins, plutôt que rester dans un endroit, consommer, etc. Donc c'est un vrai sujet d'avenir.
Dans les Pyrénées, justement, il y a des habitants qui se sont mobilisés avec une pétition pour critiquer le fait que voilà, des centaines, des milliers de touristes venaient prendre une photo précise d'un endroit, mais finalement ne restaient pas, donc il n'y avait pas d'intérêt économique pour eux, puisqu'ils ne restaient pas dans les hôtels, ils venaient pas manger dans les restaurants. Donc ça aussi, ça pose problème, Julien Leclerc.
Oui, c'est pas nouveau qu'on râle contre les touristes et que les locaux s'insurgent contre la présence de ces touristes dérangeants qui prennent de la place. Là, je suis en ce moment, moi, je travaille chez une librairie éphémère sur le festival de jazz à Marciac, que vous connaissez peut-être. Marciac, c'est un petit village de 1200 habitants en fin fond du Gers qui accueille 300 000 personnes pendant 3 semaines. Donc vous imaginez le truc. Il y a une dame hier qui me dit il y en a marre, mais en attendant, s'il n'y a pas ces 3 semaines-là, vous n'avez pas 2 coiffeurs, 3 boulangeries, 2 hôtels. Enfin bon, voilà. Donc le village n'est pas du tout le même. Donc oui, qu'on râle, c'est bien. Il ne faut pas qu'on oublie quand même que c'est une activité économique évidemment essentielle. Après, il faut réguler, oui. Il faut réguler parce qu'on est en train de détruire la planète aussi, en partant en vacances au bout du monde, en prenant l'avion, on le sait, on est en train de détruire des paysages. Je crois malheureusement que ça passe. Alors la régulation, elle est faisable. On parle de Majorque et de Venise. À Majorque, qui est une île, vous limitez le nombre d'hôtels, déjà il y aura un petit peu moins de monde qui restera. Bon, et puis faut éduquer, faut sensibiliser. Les générations qui arrivent, qu'on critique souvent en disant les jeunes, ben les jeunes, en attendant, ils sont nés dans ces problématiques environnementales et je pense qu'ils feront sans doute un peu mieux que nous là-dessus. Voilà, donc éduquons.
Jean-Jérôme Bertolus.
Oui, en fait, ça pose plusieurs problèmes. Dans les villes, ça pose le problème des Airbnb. C'est-à-dire que de plus en plus, dans les grosses villes touristiques, y compris Paris,
dans le Marais notamment, plein centre de Paris.
Voilà, on achète des appartements, non plus pour les louer, non plus pour y habiter, mais pour les mettre sur Airbnb. Donc ça change véritablement la physionomie de certaines villes. C'est le cas aussi à Barcelone, d'une manière très aiguë.
On a vu des manifestations ces dernières années des habitants pour dire justement non.
Parce que tous les prix explosent à côté, bien sûr. C'est non seulement il y a moins de logements, mais les prix effectivement s'alignent en quelque sorte. Donc ça pose un problème de régulation des Airbnb. Et puis on veut voir des villes. On n'a pas envie de voir des villes musées où il n'y a plus d'habitants. habitants, on a envie d'aller à la rencontre de ces habitants.
Ça, c'est le cas dans plein de villages. Il y a plein de villages qui sont morts à cause de ça.
Et par exemple, Dubrovnik, il y a tellement de touristes que que effectivement, la ville va peut-être perdre son label de patrimoine mondial de l'humanité. Et puis, ça pose l'autre problème pour les sites naturels. Par exemple, les Calanques de Marseille, c'est un site naturel, c'est une réserve. Il y a 3 millions de visiteurs par an. Donc, problème, il est évident sur la nature. Maintenant, il faut le mesurer. Et en fait, ce que ça pose, le tourisme de masse, c'est est-ce qu'il faut simplement, réguler le tourisme de masse par des permis. C'est par exemple, les Philippines viennent prendre cette disposition pour une île, effectivement, où il y avait trop de touristes et où ça abîmait le lagon. Alors maintenant, il faut un permis. Il y a des sites comme ça. Est-ce que ça va monter? Est-ce que c'est une solution? En tout cas, c'est sur la table.
Et on va continuer à parler de ces solutions pour tenter de réguler le tourisme de masse dans la deuxième partie. Désinformé, on fera d'abord un point sur la météo et l'info. À tout de suite.
Gère tout dans la maison. Aude, gère tout ce que je veux.
Je veux Aude.
C'est décidé. À la rentrée, je fais confiance à Aude. Ranger, laver, repasser, faire les courses et le dîner, leurs professionnels s'occupent de tout. Grâce à Aude, je respire et je bénéficie de 50% de crédit d'impôt. Vous aussi, faites confiance au numéro 1 en France des services à la personne. Rendez-vous sur aude.fr.
Et moi, je vois la vie.
France Info Météo, avec Gauthier, séjour, salon, chambre et dressing, le mobilier pour toute la maison à retrouver dans nos magasins et sur gauthier.fr.
Et avec Sébastien Léas.
Coup de chaud pour demain sur les régions du sud avec une forte hausse des températures, gagnant parfois 4 à 7 degrés par rapport à cet après-midi. Les maximales grimperont entre 29 et 37 degrés. Sur la moitié nord, les températures seront aussi en hausse, mais la chaleur sera plus modérée avec 22 à 30 degrés. Ce pic de chaleur gagnera aussi le quart nord-est pour la journée de vendredi. Côté ciel, la journée de demain s'annonce plutôt calme, hormis sur la Bretagne et la basse Normandie qui verront quelques averses circuler, surtout en matinée. Le temps sera quand même nuageux des pays de la Loire aux Hauts-de-France en passant par le bassin parisien. D'ailleurs, le soleil et les belles éclaircies l'emporteront assez largement, avec un ciel quasiment tout bleu sur les régions du sud. La matinée sera quand même un peu mitigée en Corse, sur la Côte d'Azur et entre le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté, à cause de grisailles se dissipant parfois tardivement, notamment dans le Val-de-Saône.
Sébastien Léas de Météo France, bienvenue si vous nous rejoignez sur France Info, il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Amaya Cazeneuve pour l'info.
Dans le Var, le conducteur du fourgon qui a renversé et tué le maire de Signes a été mis en examen pour homicide involontaire. Laissé libre, l'homme de 23 ans reste sous contrôle judiciaire. Le maire l'avait surpris en train de déverser des gravats sur un terrain de sa commune avec un de ses collègues. Une cérémonie d'hommage à Jean-Mathieu Michel est organisée demain à 16h sur le parvis de la mairie de Signes. Elle avait été arrêtée en août 2016 à Clermont-Ferrand après avoir évoqué des projets d'attentat au nom du groupe État islamique. Une jeune femme radicalisée de 21 ans a été condamnée aujourd'hui à 7 ans de prison par le tribunal correctionnel de Paris. Elle devra également suivre un suivi socio-judiciaire pendant 5 ans. Pourra-t-on bientôt boire de l'alcool toute l'année dans les stades? Pour l'instant, les associations sportives bénéficient de 10 dérogations par an. Le reste du temps, il est formellement interdit de boire de l'alcool. Une centaine de députés LREM proposent d'assouplir cette disposition. Ils ont déposé une proposition de loi en ce sens. Ce serait une bonne idée pour Loïc Villiers. Il est le président du club de supporters du RC Lens, les North Devils.
Pour moi, c'est une très bonne chose, car déjà, ça fait une grosse manne financière pour les clubs. Ça va faire un budget important, parce que on sait que ça va être un produit qui va être fort consommé, donc forcément, pour les clubs, c'est que du bénéfice. Il faut juste regarder dans d'autres pays, comment ça se passe. En Allemagne, ça se déroule très bien. C'est pareil au niveau de la Belgique. Après, c'est comme partout, c'est comme dans des bars, il faut aussi faire attention les serveurs, il faudrait qu'il y ait des consignes, faire attention de pas servir les personnes qui sont déjà fortement alcoolisées ou des choses comme ça, mais on a le contre-exemple des autres pays où ça se déroule vraiment très bien, en fait.
Et pour cette proposition de loi pour rétablir l'autorisation de vente d'alcool dans les stades doit être présentée en septembre à l'Assemblée. En Malaisie, les recherches s'intensifient pour tenter de retrouver Nora Corinne, cette adolescente franco-irlandaise a disparu depuis 3 jours. Elle était en vacances dans une petite station touristique avec avec sa famille. Près de 200 personnes et un hélicoptère sont mobilisés pour la retrouver. L'accueil risque d'être frileux, voire houleux pour Donald Trump à El Paso au Texas. Le président américain se rend sur les lieux de la fusillade qui a coûté la vie à 21 personnes samedi. Avant de quitter la Maison Blanche, Trump a affirmé que les récentes tueries n'avaient rien à voir avec lui. Une réponse à ce qu'il accuse d'attiser les haines dans son pays. Et puis on termine avec cette sacrée frayeur pour une mère de famille dans le Loiret. Elle effectuait le trajet Paris-Toulouse en bus aujourd'hui. Après une pause sur une aire d'autoroute, elle a vu le car repartir sans elle, mais avec à son bord ses deux enfants, dont un bébé. Heureusement, comme dans un film, elle a pu monter dans un véhicule de la gendarmerie pour rattraper le bus.
Ah, Maya Cazenave pour l'info, les informés. Eux sont toujours là. Il est 20h33 sur France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Les informés de ce mercredi, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de France Info, Julien Leclerc, chef d'entreprise et écrivain, et Jade Zab, fondateur du Parlement étudiant. On parlait avant la pause du tourisme de masse. On va continuer à en dire quelques mots. Quelles solutions pour le réguler? On a vu que des villes comme Venise, par exemple, faisaient payer un droit d'entrée à présent pour entrer justement dans la ville, éloigner également les paquebots. Est-ce que ça, ce sont des bonnes solutions, Jade Zab? Est-ce qu'il faut prendre des mesures de la sorte?
Je pense là-dessus que le pouvoir administratif, qui est pour le coup celui des élus locaux, doit pouvoir servir à protéger les territoires et les différents monuments qui peuvent être visités. Et on parlait tout à l'heure de la Normandie. Il y a un arrêté qui a été pris en l'occurrence pour réguler les horaires sur la journée pendant laquelle on peut accéder. On parlait des calanques qui ont aussi été, je crois, la semaine dernière, fermés pendant une semaine pour permettre à l'écosystème de, non pas de se régénérer, mais au moins de respirer malgré la chaleur qui fait là-bas.
Il y a un nombre de passages limités sur le Mont Blanc.
Voilà,
également.
Tout à fait. Donc, très clairement, je pense que là-dessus, le pouvoir de police administrative, qui est celui des élus locaux, peut avoir une utilité. Et vous mentionniez tout à l'heure les réseaux sociaux. Il y a aussi la question des séries qu'on regarde, et en l'occurrence, la série de Tchernobyl, où tout, ça y est, maintenant, la ville est complètement assaillie par les touristes qui ont regardé la série, qui maintenant veulent aller sur place. Donc, effectivement, on est dans une époque de l'image, et les jeunes, notamment, ont envie d'être un peu les acteurs de ce qu'ils voient à la télé ou de ce qu'ils écoutent. Et donc, ça peut amener très clairement à des dérives, et en l'occurrence, je pense qu'il y a la nécessité d'avoir une prise de conscience sur le fait que les endroits qui nous accueillent ne sont hélas pas immortels, et on peut aussi contribuer à leur mort. Donc il faut arriver à la fois, en même temps, si vous me permettez l'expression, favoriser le tourisme parce qu'il y a des choses à voir et ça, c'est une ouverture d'esprit, mais en même temps réguler tout ça pour que toutes les générations aient accès au patrimoine mondial.
Avec cette difficulté de trouver l'équilibre justement entre économie et environnement, par exemple en Occitanie où des élus, beaucoup d'acteurs du territoire ont écrit à Carole Delga, la présidente de la région, pour lui dire justement qu'il ne voulait pas que son paradis touristique, comme ils disent, contribue à l'enfer climatique, Jean-Jérôme Bertolus.
Oui, parce que on voit, hein, c'est un mouvement, embryonnaire, ces revendications plus ou moins violentes contre les touristes, mais vraiment, c'est le contraire de... Moi, je déteste ce mot, vivre ensemble, c'est simplement le contraire de vacances. Quand on est en vacances, normalement, on va vers l'autre, on est ouvert en plus, comme on n'est pas assailli par les soucis, on est plus ouvert, on va vers les autres, etc. C'est ça aussi, les vacances et les échanges. Et si maintenant, pour survivre dans une ville touristique, pour survivre dans un site naturel, il faut s'en prendre aux touristes, on marche sur la tête, véritablement. Et c'est bon, ni pour ceux qui s'en prennent aux touristes, ni pour les touristes. Donc il faut vraiment trouver un moyen de régulation. Et je le crains, effectivement, cette régulation, eh bien, c'est sûrement quelque chose de drastique. Par exemple, tous les Français sont fans des parcs naturels aux États-Unis. Et on sait que les parcs naturels aux États-Unis, ils ont leur propre autorité et ils observent la nature. Ils ont ce qu'on appelle une capacité, effectivement, d'ouverture de ces parcs. Eh bien, c'est eux qui fixent le nombre de touristes qui viennent visiter le parc. En France, les parcs ne peuvent pas faire ça parce que il y a une espèce de millefeuille autour de ces parcs, millefeuille territorial, les communes, le département, etc. Et puis en plus, on ne se donne pas les moyens de mesurer véritablement l'impact des touristes sur la nature, mais on en viendra sûrement à ça.
Et ce sera effectivement un sujet dont on reparlera dans les informés et dans les années qui suivent. On s'intéresse maintenant à ce mouvement aujourd'hui et ce soir des livreurs de l'enseigne Deliveroo. Manifestation à Paris et appel de la part de ces grévistes à boycotter la marque au profit d'ailleurs des concurrents de la livraison de repas à domicile. Des blocages de restaurants sont aussi programmés. Ce qui est en cause, c'est la nouvelle grille des tarifs avec des courses longue distance mieux rémunérées. C'est ce que dit Deliveroo, ce que contestent les livreurs qui, eux, estiment perdre de l'argent à l'image d'Antoine.
Sur les courses à faible distance, c'est clairement pas bénéfique pour nous. Gagner 2,50€, 2,80€, c'est clairement trop bas pour 10 minutes, 20 minutes d'attente, des fois dans les restaurants. Avant, on avait encore la méthode de dire on s'arrange à faire moins de kilomètres, à prendre des courses à faible distance. Maintenant, on peut plus parce que c'est trop mal payé. Sur une journée banale, on va dire on a 8 heures de boulot, ça peut vite partir sur 70, 80, 90 kilomètres. J'arrive à faire un SMIC, quoi, en gros 1 200€, en bossant le soir et les week-ends.
Antoine, livreur Deliveroo, originaire de Rouen. Pour se faire entendre, Julien Leclerc, il y a une autre solution que ce rapport de force?
Je sais pas. En tout cas, j'ai trouvé ça, je suis chef d'entreprise, j'ai trouvé ça très violent parce que dans les mots, ils appellent quand même à donc passer des commandes chez les concurrents qu'ils citent. Et ils citent des concurrents qui, à mon avis, n'ont pas des pratiques vachement plus vertueuses. Moi, je pense qu'on ne peut pas lutter contre ce qu'on appelle l'ubérisation du travail. Je pense qu'on ne peut pas. Je suis même pas sûr qu'on doive le faire. Je pense que le droit social devra s'y faire une place en revanche. Donc, il va falloir qu'on travaille là aussi, comme tout à l'heure, sur une sorte de régulation de ce qui se passe. Je fais un peu le parallèle avec la révolution industrielle où c'était passé un peu comme ça. On s'est jeté à fond dans quelque chose et on a eu des pratiques franchement assez scandaleuses. Et un peu plus tard, on a commencé à réguler. Je pense qu'il va falloir qu'on en passe par là.
Jadzab.
Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec le fait que le droit social devra s'en accommoder parce qu'on est quand même dans un pays et on disait dans un pays où il y a un certain nombre de droits pour les travailleurs et la personne qu'on entendait à l'instant disait gagner à peu près un SMIC, mais il faut noter que c'est un SMIC sans aucun droit ensuite à la retraite en l'occurrence. Et donc, à mon sens, c'est nécessaire que notre époque puisse permettre ces initiatives. Il faut rappeler que les personnes qui travaillent pour des plateformes ont le statut d'auto-entrepreneur, mais il faut aussi qu'on puisse assurer un minimum. Et vous disiez en début d'intervention que vous ne compreniez pas le fait que certains appellent à aller à la concurrence. Je crois en revanche que c'est au cœur de...
J'ai pas dit que je ne comprenais pas, j'ai dit que je trouvais ça très violent.
Alors,
de dire faites vos commandes ce soir, pardon, je ne sais pas si j'ai le droit, mais tant pis. Faites vos commandes ce soir sur Uber Eats. Quand le mec bosse chez Deliveroo, je trouve ça très violent.
Alors je pense qu'au contraire, ils sont dans le rapport de force avec leur propre employeur, puisqu'il y a tellement aujourd'hui de plateformes. Je crois qu'il y a 300 000 personnes qui travaillent aujourd'hui sur des plateformes. Il y a tellement de demandes de la part des consommateurs et de plateformes que si les plateformes elles-mêmes ne changent pas, ces personnes-là iront travailler pour le concurrent. Donc je pense au contraire que peut-être que ce genre d'initiative peut permettre à des plateformes comme Deliveroo, dont on parle ce soir, de changer les règles. À noter que les personnes qui manifestent ne demandent pas toutes de passer d'un statut d'auto-entrepreneur au statut de salarié. C'est pas du tout la question. Le statut leur convient. Là, en l'occurrence, je crois que Deliveroo a supprimé le montant minimum de 4,70€ pour la course. Et ce qu'ils demandent simplement, c'est d'avoir un niveau de vie qui puisse être digne. Je pense qu'on ne peut que sortir grandi de tout cela et en permettant à tout le monde d'avoir cette activité.
Et le débat se poursuit dans les informés. Juste après, un point sur l'info à 20h40. Armel Balogog.
L'avocat des fils de Jean-Mathieu Michel ne croit pas à la thèse accidentelle. Selon Jean-Claude Giudicelli, le conducteur de la camionnette était conscient que sa manœuvre allait attenter au jour du maire de Signes. Il l'a tué lundi en faisant une marche arrière. Il est mis en examen pour homicide involontaire. Les magistrats suisses obligés de venir en France pour auditionner Tariq Ramadan. L'islamologue a interdiction de sortir du territoire. Il est mis en examen pour viol dans deux dossiers en France et en Suisse. Il est visé par une autre plainte pour viol et séquestration. Le parquet de Genève a ouvert une instruction. Les livreurs à vélo se rassemblent une deuxième fois en ce moment, une cinquantaine sur la place de la République à Paris. Ils dénoncent la nouvelle grille tarifaire de Deliveroo. À cause d'elle, leur rémunération a baissé. La commission électorale russe confirme l'exclusion de candidats aux élections locales de Moscou. Elle risque d'intensifier les manifestations en Russie. Des opposants au régime dénoncent dans la rue le rejet de 60 candidatures. La police a déjà interpellé plus de 2000 personnes.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Et on continue dans les informés à parler de ce mouvement des livreurs de Deliveroo, manifestation ce soir. On l'a dit, à Paris, une cinquantaine de personnes présentes. Vous évoquiez, Julien Leclerc, la violence, comme vous le disiez, de l'appel à aller, appeler les clients à aller chez le concurrent. On a eu un communiqué de Deliveroo qui est arrivé. Eux parlent d'activistes pour parler de leurs livreurs. Il y a une violence finalement des deux côtés, Jean-Jérôme Bertolus.
Il y a une violence des deux côtés parce que la façon dont s'établit cette ubérisation de l'économie porte à la violence. C'est-à-dire qu'on a des entreprises d'un côté multinationales, multiformes, selon les pays, qui s'adaptent ou quelquefois contournent un petit peu le droit social du pays. Et en face, on a des dizaines, des centaines, des milliers de personnes qui bossent pour ces entreprises et qui sont seules. Puisque elles, comme on vient de le dire, elles ont le statut d'auto-entrepreneur. Donc en fait, si vous voulez, c'est vraiment une révolution extrême, profonde de ce qu'on connaissait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on avait une entreprise, ses salariés, du capital, un outil de travail. Ça n'existe plus. Donc forcément, quand on a en face de soi, parce que c'est en face de soi, quand l'entreprise a en face de soi des milliers comme ça de gens qui bossent pour elle et qui ne savent pas les conditions dans lesquelles ils bossent, parce que le gros problème de Deliveroo aujourd'hui, c'est son algorithme qui calcule les courses. Et cet algorithme...
Faire le plus de revenus possible.
Voilà. Cet algorithme, personne ne le connaît. On ne sait pas la manière dont ça se passe. Donc effectivement, ça crée une certaine violence, en tout cas verbale, encore une fois, verbale, enfin, et encore d'ailleurs. Mais ce qui est clair, c'est que le droit va devoir, réconcilier tout le monde. Ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas avoir que des auto-entrepreneurs payés à la tâche comme on l'était au Moyen-Âge. Il faut clairement qu'il y ait un certain équilibre. Il y a eu une occasion manquée, c'est la loi sur les mobilités. On prévoyait qu'il y ait une représentation, par exemple, de ces livreurs au sein de l'entreprise. Ça n'a pas été souhaité par le gouvernement. Pourtant, ça semble au départ un peu de bon sens qu'on puisse se mettre autour d'une table et parler.
C'est ce que souhaite notamment le député Aurélien Taché, qui lui, député de la majorité, qui a déposé des amendements en ce sens. Les livreurs, eux, ils espèrent une requalification de leur contrat, et ça, visiblement, on en est très loin, Julien Leclerc.
Je ne sais pas si on est très loin. D'abord, on parle beaucoup de l'auto-entrepreneuriat que dans des moments un peu comme ça. D'abord, il y a des auto-entrepreneurs qui gagnent mieux leur vie que des salariés. Et ensuite, il y a, pour moi, là, il y a deux points très importants qui ont été abordés. D'abord, celui
avec
du choix.
Tout de même une situation précaire.
Oui, mais qui est parfois choisie. C'est ce qu'a dit Jadza tout à l'heure. Il y a quand même aujourd'hui, notamment des jeunes générations qui ont des attentes très fortes au niveau de l'entreprise, qui veulent une vraie liberté d'organiser leur journée comme ils le souhaitent, qui souhaitent changer. Moi, j'ai un journaliste qui vient de quitter ma boîte pour faire un apprentissage en ferronnerie. Je veux dire, il demande aussi une grande mobilité. Il y en a qui choisissent d'être auto-entrepreneurs. Le problème, c'est quand ils ne le choisissent pas et qu'ils le subissent, sans savoir forcément ce que ça signifie en termes de droits. Et enfin, et là, je réponds à votre question sur est-ce qu'il y aura une requalification, il y a quand même des règles qui encadrent l'auto-entrepreneuriat. Et notamment, quand vous êtes auto-entrepreneur, vous devez normalement avoir plusieurs employeurs, vous ne devez pas avoir un lien hiérarchique évident. Or là, les témoignages qu'on entend sont quand même des livreurs qui disent bosser 50 heures par semaine que pour Deliveroo. Là, pour moi, il y a un problème. Donc oui, non, on n'est peut-être pas si loin de la requalification de leur contrat de travail.
L'article 20 de la loi d'orientation des mobilités, la loi LOM, semble en tout cas, pour l'instant, exclure cette requalification avec des difficultés pour se présenter devant les tribunaux, Jadzab.
Oui, mais c'est un sujet qui, très clairement, est d'avenir. Vous mentionnez les livreurs, beaucoup sont des jeunes qui parfois ont cette activité-là pour payer des études, pour avoir un logement à côté de leurs études. Et effectivement, il y a un changement de ce qu'est le marché du travail aujourd'hui. On a beaucoup plus de carrières dans la même vie. On n'est plus sur une carrière après les études qu'on a tout au long de sa vie jusqu'à la retraite. On a un raccourcissement du temps de travail, du nombre d'années qu'on passe d'affilée dans la même entreprise. Donc effectivement là-dessus, le droit du travail avait senti cela sans néanmoins se saisir complètement de la question de l'auto-entrepreneuriat et de toutes ces plateformes. La loi Pacte qui a été adoptée l'année dernière, qu'avait porté Bruno Le Maire sur la modernisation de l'économie, l'économie avait essayé de jeter quelques pistes, notamment sur la question des Uber, parce que cette question s'était posée au moment du conflit entre les taxis et les chauffeurs Uber. Et en fait, c'est exactement la même problématique qui aujourd'hui va se retrouver dans différents domaines avec des services à la personne qui maintenant se font directement par le biais d'applications. Donc il faut en même temps l'encourager parce qu'il y a des initiatives de jeunes justement qui créent ces entreprises à partir de rien et qui réussissent à créer une plateforme qui peut révolutionner les liens dans une communauté, dans un immeuble, etc. Mais il faut dans le même temps aussi protéger les travailleurs et faire en sorte qu'il n'y ait pas un lien d'ultra-dépendance d'un auto-entrepreneur vers la personne qui le paye. Et vous disiez, l'auto-entrepreneuriat, c'est la liberté. Là, en l'occurrence, on parlait de cet algorithme qui n'est pas connu. Ça peut parfois se transformer en une forme de servitude un peu moderne.
Et d'ailleurs, il y a un témoignage qu'on a entendu sur votre radio dans la journée où le témoin, le salarié qui n'était pas content, au bout de trois minutes, le livreur était appelé par Deliveroo qui avait constaté que ça faisait trois minutes qu'il ne bougeait pas. Donc on est bien dans un lien hiérarchique fort là.
Est-ce que l'État, est-ce que le pouvoir politique, Jean-Jérôme Bertolus, peut agir justement sur ces très grands groupes? On évoquait Uber, Deliveroo. Est-ce que il y a de la place pour justement dire allez maintenant, on change de pratique?
Non seulement l'État le peut, mais l'État le doit. Aujourd'hui, la souveraineté nationale, vous savez que c'est au cœur de problématiques politiques très lourdes, ça passe par une reconquête, on va dire, de l'État par rapport à ces multinationales. Alors on peut le voir quand la France veut taxer les GAFA, mais clairement, imposer un minimum de droits sociaux pour les auto-entrepreneurs, c'est aussi du domaine de l'État. Vous savez, moi je suis pas en train de dire « Oh là là, les pauvres entrepreneurs et les méchantes plateformes », parce que Uber, par exemple, ça a été un formidable appel d'air aussi en matière d'emploi pour beaucoup de jeunes des quartiers qui sont confrontés simplement au plafond de verre qui existe en France. Mais en même temps, on peut pas juste dire « Ah bah voilà, il a un job, donc il va pas se plaindre », parce que le chômage... Eh bien, s'il tombe au chômage, il n'a pas le droit au chômage. S'il est malade, mais t'as pas pris une assurance, Coco, donc il faut pas être malade, etc. Donc il faut quand même remettre un tout petit peu, de régulation sociale par rapport aux plateformes. Et vous avez vu que Amazon a pris une participation dans Deliveroo, donc là, on est quand même face à des mastodontes.
Et on a aussi un peu cette impression, ce paradoxe. On est à la fois, effectivement, comme vous le disiez, une envie peut-être de libéraliser ce marché du travail, cette start-up nation, tout en essayant de... Enfin voilà, c'est compliqué de trouver l'équilibre.
Oui.
Allez-y,
l'auto-entrepreneuriat n'a pas été créé pour ça. Au départ, l'auto-entrepreneuriat, on était vraiment dans l'idée de compléter un revenu, soit quand on est salarié, soit quand on est au chômage, soit quand on est à la retraite aussi. Et c'était d'ailleurs, c'était une excellente idée. C'est quand même un super dispositif qu'on a pérennisé par la suite, mais qui aujourd'hui est utilisé, parce qu'il y avait des failles juridiques, sur du salariat déguisé. C'est là-dessus qu'il faut peut-être se battre. Voilà, et je reviens, celui qui bosse à 50 heures par semaine pour un seul employeur et qui en plus est pisté par cet employeur, mais je pense pas qu'il soit entrepreneur de sa vie.
Julien Leclerc, Jean-Jérôme Bertolus, Jade Zab, la dernière partie des informés déjà, dans un instant, juste après l'info, 20h50, Armel Balogog.
Les obsèques de Franck Chesneau ont eu lieu cet après-midi. Une cérémonie religieuse dans l'intimité familiale à Cornillon-Confou dans les Bouches-du-Rhône. Franck Chesneau, c'est le pilote mort dans le crash de son bombardier vendredi dernier. Il combattait l'incendie de Générac dans le Gard. Hier, il a reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Un homme mis en examen pour homicide involontaire après la mort du maire de Signes. C'est le conducteur de la camionnette qui a tué Jean-Mathieu Michel en faisant une marche arrière. L'employé de travaux publics est placé sous contrôle judiciaire. Donald Trump, de nouveau dans l'avion. Il se dirige vers El Paso au Texas. Visite polémique du président américain. Ils se rendent au chevet des victimes d'une fusillade le week-end dernier. 22 personnes sont mortes, mais Donald Trump est accusé d'attiser les haines aux États-Unis. Des chercheurs français font une découverte qui va changer l'astronomie. 39 galaxies invisibles existent bel et bien. Ils ont réussi à les voir grâce au télescope le plus puissant du monde basé au Chili. Et ces galaxies noires vont leur permettre de comprendre l'évolution des galaxies massives dans l'univers.
France Info.
20h, 21h, les informés, Victor Matet.
Quatrième et dernier sujet ce soir dans les informés. Faut-il autoriser à nouveau la vente et la consommation d'alcool dans les stades, comme le proposent une centaine de députés de la majorité? Mesure soutenue par le président du club de foot de Reims, Jean-Pierre Caillot, avec dans le même temps le retour de la publicité pour ces alcools.
Il faut quand même être conscient qu'on est dans des compétitions internationales et donc tous nos compétiteurs, eux, utilisent des marques d'alcool dans leur promotion. Donc nous, on est fortement pénalisés en France par rapport aux autres pays d'Europe et aux autres compétiteurs. Un club comme Reims, évidemment, qui est l'ambassadeur de la Champagne, il y a évidemment un certain potentiel avec la plupart des grandes maisons de champagne qui sont à Reims et qui pourraient se servir du club pour faire leur promotion.
Jade Zahad, pour ou contre le retour de l'alcool dans les stades ?
Alors, au risque de paraître rétrograde, je suis plutôt contre ce dispositif. Depuis 1991 et la loi Evin, la consommation d'alcool est interdite au sein du stade, de même que la vente par les clubs, c'est-à-dire qui sont des associations sportives. Et on vient de l'entendre à l'instant, l'enjeu majeur de ce texte, en tout cas la justification du texte, c'est de dire les clubs n'ont plus les moyens, et effectivement la question du sport sur les territoires est un vrai sujet aussi de démocratisation et de mixité sociale, donc je peux entendre le fait que la question des finances des clubs sportifs est un vrai sujet. Je ne crois pas que faire passer, là pour le coup, les intérêts purement économiques avant les questions de santé publique soit la meilleure des réponses. L'autre argument que j'ai entendu au début de l'année, puisqu'il y a une proposition de loi qui avait déjà été déposée par quelques députés, les Républicains, eux, ils disaient très clairement, l'idée c'est de lutter contre l'alcoolisation massive à l'extérieur des stades, et donc là où je dois sans doute rater un épisode, c'est on lutte contre l'alcoolisation à l'extérieur des stades en permettant de consommer à l'extérieur, dans le stade et après, une nouvelle fois à l'extérieur. Donc j'avoue ne pas bien comprendre l'enjeu de santé publique qui, à mon sens, est important quand les législateurs écrivent la loi. Je pense que ça doit quand même être pris en compte, mais je comprends bien sûr la position des présidents de clubs de foot.
C'est l'un des arguments justement qu'on a entendu. Il y a déjà de la vente d'alcool en dehors du stade, juste à côté, donc avant le match. Il y en a aussi après, donc ce serait hypocrite finalement de pas en vendre pendant le match, Julien Leclerc.
Mais on est dans l'hypocrisie. Hein. Au risque de paraître progressiste, moi je suis pour le retour. Pas pour le retour des publicités pour l'alcool en revanche, mais sur la consommation d'alcool dans le stade. D'abord, il y en a jusqu'à un certain niveau dans les petits clubs de district. Moi je joue à Miradou dans le Gers. On boit de la bière au bord du stade.
Pas pendant le match quand même.
On a quand même arrêté.
Pendant que vous jouez.
Non, pas pendant que vous jouez. Il y a quelques matchs de foot, faut peut-être mieux avoir un coup dans le nez quand on les regarde. Pardon, c'était une très mauvaise blague, je la retire. Non, mais on a aussi interdit la clope dans les stades parce qu'on a estimé qu'il était source de violence, etc. Or, quand même, on s'aperçoit avec un petit peu de recul aujourd'hui que boire une bière ou deux pendant les matchs ne rendait pas raciste, homophobe et machiste. Quand on est con dans le stade, on l'était avant d'y entrer. Je trouve que ça peut avoir du sens de dire vous pouvez boire une bière ou deux, puisqu'on parle bien de cet alcool-là, je pense, dans le stade, peut faire qu'il y a un petit peu moins d'alcoolisme. Finalement, c'est que vous avez aujourd'hui, quand vous allez au stade, avant l'entrée, il y a des mecs qui se boivent 2-3 bières cul sec, parce qu'ils savent que dans les 2 heures qui vont venir, ils vont pas pouvoir en boire. Donc finalement, peut-être que c'est mieux qu'ils aient un peu moins une montée comme ça, et que pendant le match, ils puissent aller s'en acheter une, sachant que acheter une bière dans un stade de foot, ça prend bien une demi-heure. Voilà. Je termine juste sur l'hypocrisie, c'est que si vous êtes en loge VIP, aujourd'hui, vous avez le droit de consommer de l'alcool, comme vous avez le droit de consommer l'alcool quand vous allez au théâtre, vous buvez une coupe de champagne, etc., etc.
Les addictologues, justement, disent que ça va inciter, finalement, notamment les jeunes, à boire plus, que c'est une incitation, que c'est un très mauvais message envoyé, Jean-Jérôme Bertolus.
Oui, Victor, hein, les addictologues, ils ont un argument de poids, un argument massif, c'est les 40 000 morts chaque année dues à l'alcool en France, et effectivement, ils mettent en avant que réconcilier l'alcool et sport, eh bien, ça n'est pas rendre service à nos concitoyens et à nos jeunes concitoyens. Alors, ce qui est vrai, si vous voulez, la loi Evin, c'était un texte courageux à l'époque, hein, parce qu'il y a eu des vraies batailles, et comme tous les textes fondateurs, tous les textes emblématiques, c'est des sortes de digues. Comme on parlait de l'environnement, bah, la mer, elle s'y attaque année après année. Donc c'est un serpent de mer, la loi Evin. Pratiquement chaque année, on voit des initiatives pour tenter de la remettre en cause avec des bons arguments. Hein. Oui, c'est vrai que les clubs amateurs, ils peuvent vendre de l'alcool. C'est vrai que les loges VIP dans les grands stades, eh ben, allez hop, une coupe de champagne, et puis 2 coupes de champagne et 3 coupes de champagne. C'est vrai que les clubs mondiaux, effectivement, ils ont accès à des parrains alcooliers. Maintenant, la question, c'est de savoir si...
Au théâtre aussi, hein, vous pouvez boire une coupe de champagne sur à peu près n'importe quel spectacle où vous allez aujourd'hui.
Voilà, sans doute. Donc, il y a toujours des bons arguments. Le petit problème, c'est de savoir s'il faut année après année, en quelque sorte, réduire cette loi Évin. Et puis quand même, là, l'initiative des parlementaires de la République En Marche, c'est aujourd'hui, en France, pour les compétitions sportives. Mais demain, l'enjeu majeur, c'est les Jeux Olympiques. Donc, si effectivement on adopte cette nouvelle législation aujourd'hui en France, demain elle s'appliquera à Paris, aux Jeux Olympiques, et là, la loi Évin sera vraiment foulée aux pieds.
Il y a un argument économique pour les députés avec le poids des lobbies, c'est ça que vous voulez dire, Jean-Jérôme ?
Moi, le poids des lobbies, je ne sais pas si c'est des lobbies, c'est des gens qui sont dans le vin. Vous savez que la consommation d'alcool baisse en France année après année. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'il faut mettre au regard de ces chiffres, je les ai relevés pour l'émission, 52 litres par an et par français aujourd'hui, 75 litres en l'an 2000, vous voyez, il y a une grosse différence. Pourtant, l'an 2000, c'est pas si loin que ça. Hein. Mais en même temps, le budget moyen ne baisse pas. Ça veut dire qu'on consomme moins, mais on consomme mieux. Donc, ceux qui sont aujourd'hui dans le vin, dans l'alcool, ne sont pas non plus, on va pas leur donner la piécette. Hein. Ils sont pas forcément complètement à plaindre. Mais c'est vrai qu'il y a des arguments économiques et c'est vrai que c'est normal. Hein. Moi, je suis député dans une circonscription, il y a des vignobles, je suis sensible à mes administrés.
Mais oui, complètement. Et vous mettez le doigt sur un des sujets qui avait été au cœur du débat du projet de loi de financement de la sécurité sociale à l'automne dernier. C'est le texte que vote le Parlement à l'automne sur les budgets de la sécurité sociale et sur la ligne politique en termes de santé publique. Et la question de la prévention à l'égard des jeunes a été un vrai sujet. En l'occurrence, quand on boit dès l'âge de 10 ans, par exemple, une limonade goût Mojito, il y a eu un débat en disant, mais est-ce que finalement on n'est pas en train d'habituer dès le plus jeune âge des enfants à un jour passer la ligne très simplement puisqu'ils auront été habitués au goût? Alors c'est sans doute très bon, il y a très certainement beaucoup de sucre dedans.
Beaucoup trop sucré.
Mais effectivement, on est en train de créer le terreau propice à mon sens, une addiction. Je comprends tout à fait que les députés, par exemple, des territoires ultramarins, où la production de rhum, par exemple, à l'île de la Réunion, c'est, je crois, plus de 30% de l'activité économique, je comprends tout à fait que là-dessus, les députés locaux et que même les habitants qui sont dans ce domaine-là soient contre. Mais je crois que là-dessus, il faut réussir à trouver le bon équilibre. Il y a eu une polémique au début de l'été dernier entre la ministre de la Santé, Madame Buzyn, et le ministre de l'Agriculture sur le vin est-il un alcool comme les autres. Donc le ministre de l'Agriculture disait le vin c'est l'âme de la France et Madame Buzyn disait le vin finalement les molécules qui sont à l'intérieur sont les mêmes que tout autre alcool. Donc on est sur ce débat éternel qui revient et je pense que là-dessus hélas, la protection de la santé publique doit primer.
Et ce sera le mot de la fin. Désolé, Julien Leclerc, on est pris par le temps. Jade Zab, Julien Leclerc, Jean-Jérôme Bertolus, merci à vous trois d'avoir été ce soir les informés de France Info. Les informés reviennent bien évidemment demain.